France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Edilbert. Je suis née à Ankara, en Turquie, le 21 novembre 1941. Et je suis, bon, s'il faut parler d'un métier, je suis musicienne.
Birette, nous sommes ici à Paris,
oui.
Une ville que vous connaissez très bien,
oui.
Dans laquelle vous avez cette maison dans laquelle nous sommes. Quel est votre rapport à la musique française ?
Ah oui, la musique française, c'est-à-dire que j'aime énormément, j'ai beaucoup joué de Ravel, spécialement Gaspard de la Nuit, parce que c'est ce côté un peu étrange, fantasque, me ravit. Debussy, sans aucun doute, mais ce que j'aime le plus dans Debussy sont les études. Et je trouve que c'est complètement un autre chemin, et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Là, pour une fois, on sent la douleur dans la conception de ces... Parce qu'il était dans un état, il devait souffrir le martyr, sans aucun doute. Mais c'est extraordinaire. Ce sont les œuvres que j'aime le plus.
Et Gabriel Fauré ?
Forêt, je trouve que c'est aussi un compositeur qu'on a beaucoup négligé. Il y a une sorte de subtilité dans les modulations et dans la manière de faire qui est complètement unique. J'ai joué plusieurs fois la ballade que j'apprécie énormément avec orchestre. Et en Angleterre, parce qu'en Angleterre, on le joue très très souvent. J'aimais beaucoup jouer le 13e nocturne. Les morceaux qui font un petit peu des morceaux de salon, il faut les jouer avec cette élégance. Mais c'est une musique qui est beaucoup plus profonde que ce qu'on essaie de faire. Franck, c'est une autre histoire encore. J'ai beaucoup joué les préludes chorales et fugues. Et une œuvre qu'on aime pas tellement que moi j'aime bien, c'est prélude, aria et finale. Il ne faut pas en faire quelque chose d'énorme, c'est le deuxième moment est magnifique.
Parlons de quelques grandes rencontres que vous avez faites.
Des rencontres, oui.
Oui, par exemple, la rencontre avec Richter.
Ah oui, mais vous savez, c'était complètement surréaliste. Il est venu à Istanbul pour faire des concerts. Et c'était pendant le jour de l'an. L'organisateur, qui était un ami, a dit, ben, on doit sortir ce soir, on doit faire quelque chose. Bon. Il y avait Richter, il y avait la femme du directeur du Gosconcert, il me semble, je ne suis pas sûre. Un ami et sa fiancée, moi et cet ami qui le représentait, qui faisait les concerts. Nous avons d'abord été dans un restaurant. Bon. Après, on a été dans des nightclubs. Je ne sais pas ce qui a piqué cet ami d'amener Rita dans des nightclubs. Et moi, je voulais lui demander des tas de questions. Je dis, mais vous avez... Et Scriabine, qu'est-ce que vous pensez? Elle disait, oui. Et puis, évidemment, il y avait tout ce bruit qui était là, autour de nous. Ah, maintenant, il y a la musique. Et on ne peut pas trop parler. Après, on commence juste à nous entretenir sur quelque chose. On revient encore une autre chose. Et puis, il y avait des gens qui venaient. C'était absolument cauchemardesque. Mais après, je l'ai revu à Tours. Je l'ai revu à plusieurs reprises. Et ce qui m'a toujours beaucoup étonnée, même pendant les concerts d'Istanbul, je suis arrivée pour le féliciter. Ah, il m'a dit, venez, venez. Vous avez vu ce que j'ai fait là? J'ai dit, pardon, je n'arrive pas à comprendre. J'ai fait des fautes, j'étais horrible. Et là, j'ai joué ceci, c'était de travers. J'ai dit, mais c'était tellement beau, comment vous dites ça? La même chose à toi. Il dit, c'est catastrophique, j'ai si mal joué. Et sa femme me disait, mais allez le trouver, il est dans un état épouvantable. J'ai dit, mais c'était superbe ce concert, pourquoi vous dites ça? Non, non, non. Et puis il me montre, non, 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 là j'ai fait une faute. Et c'est incroyable.
Arthur Rubinstein admirait vos Kreisleriana.
Ah mon Dieu! Mais vous savez, j'étais chez Nadia Boulanger et qui avait invité monsieur et madame Rubinstein à venir. Et j'avais, à l'époque, j'avais 11 ans, j'avais joué les Kreisleriana pour lui, qui n'est pas une œuvre d'enfant, bien sûr. Mais je pense que Nadia Boulanger, à l'époque, s'était dit, c'est fini, on ne peut plus la contrôler. Et je l'ai joué pour lui et il avait été vraiment plus que gentil. Et c'était quelqu'un de très attachant avec une immense spontanéité. Et il m'avait demandé de participer à l'émission La joie de vivre qui se faisait à l'époque. Et ça a été une surprise totale. Et j'étais au conservatoire, donc pas autorisée à donner des concerts, à faire des sons, justement. Alors il a fallu vraiment beaucoup demander, et Nadia Boulanger s'en est chargée. Et j'ai joué tout de même un capriccio de Brahms. Mais je l'ai revu après, aussi à Fontainebleau pendant les cours d'interprétation. Et il n'était pas d'accord avec Nadia Boulanger. Il trouvait que je devais faire des concerts et qu'il ne fallait pas que je reste comme ça.
Protégée.
Enfin, mais, et la même chose aussi, Wilhelm Backhaus, pour lequel j'avais joué lorsque j'étais enfant. Mes parents ont demandé, mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'elle devrait jouer? Je ne vois aucun mal à ce qu'elle joue. Mais pas tout le temps, plusieurs fois par an. Mais il ne faut pas qu'elle perde l'habitude de la scène. Mais il avait un esprit très pratique dans ce sens-là. C'était un immense pianiste que j'admire aussi beaucoup.
C'est la même période où vous rencontrez Clara Askill?
Oui, après un concert, on m'a amené la féliciter et elle était très impatiente. Elle me dit, joue quelque chose. Je dis, mais après votre concert, est-ce que vous n'allez... Non, 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 elle avait été absolument adorable. J'allais toujours la voir. Je l'admirais aussi beaucoup. Je sentais qu'il y avait toute cette force qui était en elle et qu'elle ne pouvait pas manifester. C'était parce qu'elle l'avait... tous les moyens, pianistiquement parlant, mais c'est cette maladie qui faisait qu'elle devait se limiter. Elle a des enregistrements qui datent d'avant que la maladie ne se développe. Et elle avait joué, entre autres choses, le deuxième concert de Rachmaninov. Elle le jouait très souvent, ce qui veut dire qu'elle devait avoir beaucoup de puissance. Et les enregistrements qu'ils ont de Grumio avec elle, c'est extraordinaire, vraiment. Et les concerts de Mozart et tout.
Les grands entretiens d'Idil Birette, France Musique.
Idil Birette, il y a les pianistes et il y a aussi les chefs d'orchestre. C'est très important, les chefs d'orchestre.
Ah oui, bien sûr.
Pierre Monteux, Hermann Scherchen.
Pierre Monteux, bien sûr. Pierre Monteux, avec lequel j'avais joué le troisième de Rachmaninov à Londres. Et alors, il avait 88 ans à l'époque et moi j'avais 21 ans. Donc, je suis arrivée sur scène. Et j'avais tendance à courir sur scène, à me précipiter. Et Monteux marchait un peu lentement. Il me dit, écoutez, si vous courez comme ça, vous gambadez, et moi j'arrive lamentablement derrière vous, ça n'ira pas. Et puis je vais vous dire quelque chose. Si vous marchez plus lentement, vous aurez plus d'applaudissements plus longtemps. Et je me souviens de ça. Mais dès qu'il a été au pupitre, il a commencé avec le même tempo que Rachmaninov prenait, qui est un tempo rapide. Je pense que souvent, c'est à cause des 78 tours. Et la gentillesse de Monteux et la bonté. J'ai une très belle photo qu'il m'a dédicacée.
Hermann Scherchen était plus tyrannique.
Ah, Hermann Scherchen. Alors lui, c'était autre chose. Il m'avait entendu, enfin. Alors je suis arrivée à Bruxelles, on m'avait demandé de jouer le Capriccio de Stravinsky. Je n'avais jamais travaillé, mais c'était un concert de remplacement. Et 15 jours plus tard, je devais être prête. Alors Nadia Boulanger me dit, non, surtout n'accepte pas, c'est risqué. Je dis, mademoiselle, je vais accepter, parce que j'ai envie de jouer cette œuvre, et ça m'intéresse. Alors elle a dit, tu es folle, complètement. Et je ne savais pas que c'était Scherchen qui allait diriger. Alors j'en parlais un petit peu autour de moi. Jean Français, qui était la gentillesse et la bonté et la générosité, me dit « Ah, j'ai un vieux disque de Stravinsky en 78. Je vous le passe. » Alors j'ai écouté la version de Stravinsky. Là, je me suis bien imprégnée de ce que je voulais faire. Et puis après, je suis arrivée à Bruxelles. J'ai appelé des amis. Et un de ses amis me dit, vous savez avec qui vous allez jouer? Je dis, non, je n'ai aucune idée. Avec Scherchen. Ah, c'est vraiment Scherchen. Il était venu à la maison à Ankara. Elle dit, vous savez la réputation qu'il a? C'est des bombes. Je ne savais pas vraiment. Puis je suis arrivée le lendemain pour la répétition seule. Alors, j'entends une claveciniste parce qu'il y avait un concerto bande bourgeois. Alors, il hurlait. Cette malheureuse était en train de... Elle est arrivée en larmes. Elle est sortie. Ça, c'est pas tout à fait encourageant. Je suis entrée. Et là, Scherchen me regarde en disant, oh mon Dieu, c'est lamentable, qu'est-ce qui va se passer? C'est une gamine, ça, qui va chanter Stravinsky. Puis je commence à jouer. Il me dit, bornez-vous à jouer votre partie. Ne faites pas la partie d'orchestre. Je faisais toujours des sortes de transcriptions. Je jouais les deux parties. Ne touchez pas. Ça. Et puis après quelques instants, je m'oublie. Je fais encore une transcription. Non! je vous ai dit de ne pas. Bon, très bien. Puis arrive le deuxième moment. Il me dit, là, vous vous trompez. Non, je ne crois pas. Non, vous vous trompez. Votre rythme n'est pas celui que vous devez. Je ne crois pas. Alors, il est venu derrière moi, il a regardé. Puis, après quelque chose, il me dit, vous avez raison. Et puis, après, il m'a adopté.
Quel est, Idil Birette, votre rapport au disque? Il y a un très beau coffret de tous vos enregistrements où il y a à la fois des enregistrements live et des enregistrements studio.
Je vais vous avouer quelque chose très franchement. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le coffret. Je ne sais pas. Une fois que j'ai fini une chose, je ne m'intéresse plus du tout. Ce qui peut lui arriver, c'est bon. Indépendant de moi.
Est-ce que vous aimez le travail du studio? Recommencer?
Non, vous savez, lorsque j'enregistrais les Chopin, tout ça, je passais 10 heures à faire des enregistrements et je ne me fatiguais absolument pas, j'étais toujours en forme. Non, le studio ne me fatigue absolument pas. Je peux recommencer autant que je veux parce que j'aime travailler. J'aime travailler peut-être parfois même plus que le cancer, parce que vous êtes encore plus à la recherche de choses que vous pouvez essayer de réaliser. Tandis qu'au cancer, il faut que ce soit fini. On ne peut pas recommencer un cancer, hélas, j'aimerais bien.
Lorsque vous regardez toute cette vie de concert et qui n'est pas finie, qu'est-ce qu'il y aurait comme grand souvenir?
Mais je dois vous avouer que je dois faire un effort spécial pour me souvenir, parce que comme je vis beaucoup l'instant, bon, j'essaie de me souvenir. Bon, oui, mais ça, c'est toujours entre nous, il ne faut pas trop en parler. Lorsque je suis arrivée pour jouer au Sérail de Topkapı, on avait, avant le concert, fait une sorte de cocktail et offert de l'alcool. Alors, il y a eu des gens qui se sont mis devant la porte en disant, oh, comment, là où il y a la tunique du prophète, comment peuvent-ils offrir de l'alcool, ce qui est complètement erroné. Alors, il y avait toute une bande de gens avec des gourdins, tout ce que vous pouvez imaginer. Et alors, nous étions dehors et on ne pouvait pas entrer dans le palais. Et alors, il y avait des gens qui ont descendu l'affiche et qui ont essayé de le brûler. Ils n'ont même pas réussi à le faire. J'allais dire, ah, mes pauvres amis, vous n'êtes même pas capables de brûler cette affiche comme il faut. Je vais vous montrer comment il faut s'y prendre. J'ai dit, tais-toi et reste à ta place. Puis est arrivé notre accordeur qui nous a amené par des chemins détournés dans le salle. Enfin, ça, c'était quelque chose qui frappait. Il y avait un orchestre anglais terrorisé. Très intéressant comme expérience. Après, nous sommes repartis en suivant des choses. Et puis, le lendemain, j'ai chaque 30 secondes des coups de téléphone. C'était incroyable. Mais ça, c'est plutôt désagréable. Et puis, je me suis dit, je vais partir et je vais aller sur une île déserte parce que c'est devenu insupportable. C'est pour ça que je n'ai pas de portable non plus.
Quel est votre rapport aujourd'hui à la Turquie? Vous y habitez?
J'y habite, oui. Mais vous savez, nous avons de la famille là-bas. Au fond, habiter à Istanbul, c'est habiter à Byzance. C'est un endroit extraordinaire. C'est une ville qui est tellement ancienne, qui est tellement mystérieuse. Longtemps, je trouvais que c'était un peu difficile d'habiter là-bas à cause de toute l'histoire qui faisait un poids sur vous. Plus maintenant, parce que je crois que je travaille très bien à Istanbul. Je suis complètement comme sur une île déserte et nous voyons la mer. Puis les gens sont... J'ai beaucoup d'amitié pour ce qu'ils essaient de faire et ils luttent beaucoup pour essayer d'arriver. Et il y a des gens très intéressants, des jeunes musiciens extrêmement doués qu'on ne connaît pas malheureusement et qui sont vraiment très 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 bien. Bon, je vois tout ça et je me dis que c'est normal de faire quelque chose là-bas.
Vous pensez que la musique peut avoir un rôle politique ?
Vous savez, je suis complètement politisée. Je n'ai jamais eu une seule envie d'y entrer. On m'a même une fois proposé de me présenter aux élections, sinon jamais. Alors ça, c'est tout sauf ça. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette musique. Et maintenant, j'ai joué avec un orchestre d'enfants. Seulement le deuxième mouvement du concerto Köchel 467, c'était d'une pureté, c'était formidable, j'ai beaucoup aimé. Les gens sont très doués pour la musique. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute des millénaires de civilisations qui se sont succédées. Tous ces gens sont au fond les descendants de ces civilisations anatoliennes et toutes. Il faut lutter contre l'obscurantisme.
On est ici chez vous, où on voit énormément de peintures, oui, de dessins. Vous aimez ça, Edith Biret?
Mais énormément. Lorsque j'étais un enfant, je faisais beaucoup de caricatures. J'ai essayé un petit peu, mais ça aussi, c'est exactement comme la musique. Lorsque vous entrez dans la peinture, vous perdez la notion et vous devenez quelqu'un d'asocial, complètement. Ça m'est beaucoup arrivé. Mais il y a des peintres pour lesquels j'ai énormément d'admiration, comme la dernière période de Turner. J'ai une passion pour cette période où les choses sont dans l'abstraction et par certains côtés, je n'aime pas faire des comparaisons, mais ça me rappelle Beethoven par certains côtés. Il y a Nicolas de Staël que j'aime énormément parce que lui aussi part d'une certaine réalité. C'est un très grand peintre.
Je crois que lorsque vous étiez jeune, Edith Biret, vous aviez envie de partir au Tibet à la rencontre.
Ah oui, oui, oui.
À la rencontre des chamans. Est-ce qu'aujourd'hui vous auriez encore envie?
Ah, mais oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Le chamanisme m'a toujours beaucoup intéressée parce que c'est un phénomène. Nous sommes tous, au fond, des guérisseurs et des chamans lorsque nous entrons sur une scène. Si vous arrivez à faire sentir les gens qui ne se sentent pas très bien disposés, mais qui se sentent mieux après un cancer, ça, c'est une forme d'aide. Et moi, je crois beaucoup en ce genre de choses. Vous donner quelque chose. Ah, je me sens maintenant beaucoup mieux. Quelle merveille! Vous avez fait un très bon travail.
Thank you.
Les derniers accords du concerto de Grieg par Idil Biret et l'orchestre symphonique de Bilkent dirigé par Anthony Witt. C'est ainsi que se terminent ces grands entretiens avec Idil Biret, réalisation de cette série Perrine Minguy, prise de son Lucien Lefebvre, mixage Bruno Mourlan, attaché de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste. France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.